Alors, je ne sais pas comment vous recevez un commandement de Dieu. Est-ce que vous pouvez penser ou réfléchir et dire, oui, quand était la dernière fois où j'ai reçu un commandement de Dieu et j'ai obéi à ce commandement? Tu vois, je pense que Dieu parle. Il nous parle, il dit, voilà, Robert, bam! Et après, je dis, oui, non, peut-être, attends, je suis sourd. Je ne sais pas, est-ce que Dieu parle? Est-ce que Dieu parle? Oui, ça va. Est-ce que Dieu parle? Et pour moi, je ne pense pas que c'est toujours instantané. On a souvent dans le livre d'Actes que les gens disent, allez, Ananias, il faut faire ça, toc, toc, il y a les détails. Et je pense que Dieu peut parler comme ça. Mais maintenant, on a quand même toute la parole, tout le Nouveau Testament, on a le Saint-Esprit qui est donné. Et Dieu peut parler comme ça. Mais pour moi, mon expérience, c'est que quand Dieu, il ne parle pas toujours instantanément, paf, 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 comme ça. Et pour moi, souvent, c'est comme il y a une sorte de processus où je dois recevoir, je dois être imbibé un peu par la parole de Dieu. Ça doit venir vers moi. Et c'est comme il y a des couches successives. Et un peu, il commence à parler par l'extérieur, et après, ça pénètre. Et après, bam, c'est en moi. Et je sais que Dieu m'a dit une parole. Et maintenant, je suis fort, et maintenant, je vais obéir à cette parole. Et je dis ça parce que peut-être vers 4 heures ce matin, j'ai terminé un processus de 2 semaines. Et le processus a commencé quand ma chère femme Sylviane, elle a dit une parole au culte ici, pour vous tous. Et après cette parole, c'est une parole très bien connue, qu'on cite souvent à la fin d'une année et tout ça. Mais ça a pris 2 semaines pour entrer. Et maintenant j'ai cette parole et waouh, une parole pour commencer l'année. Et je ne sais pas, peut-être je peux partager cette parole avec vous. Et je ne sais pas si ça sera comme, plaf, maintenant la parole de Dieu pour vous, pour l'année, vous allez recevoir ça instantanément. Ou peut-être ça va vous percer. Ça va vous imbiber par couches successives. Ou peut-être ça sera comme l'eau sur le dos d'un canard. Voilà, paf, paf. Et on ne retient plus la parole. Mais voilà, est-ce que vous voulez un commandement de Dieu pour 2018? Peut-être vous avez déjà, et par SMS, Dieu dit, tchou, tchou, tchou. Tout est possible. Hein? Mais voilà le commandement que j'ai reçu pour moi-même pour 2018 et que je partage avec vous. C'est en Néhémie, chapitre 8, et donc vous connaissez bien, c'est une parole qui est très très bien connue. Néhémie 8, verset 10. N'ayez pas peur, hein, c'est une bonne parole. C'est un bon commandement. Parce que souvent quand on dit les commandements de Dieu, on a été tellement formé dans l'image d'un Dieu qui a la foudre à la main. Voilà, je vais vous punir en 2018. Non, non, je ne vais pas dire ça. Ça va. Et donc Néhémie, chapitre 8, verset 10. C'est vers la fin, hein? La fin du verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Amen. Donc là, ça peut entrer ici. Là, c'est un bonbon que je veux sucer pendant tous les mois de 2018. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Et vous savez que dans le contexte ici, le peuple pleurait beaucoup, parce qu'ils étaient des réfugiés, ils étaient comme les gens qui traversent la Méditerranée aujourd'hui. Et il dit, on va reconstruire notre temple chez nous. Mais ils étaient attaqués. Ils avaient tous leurs souvenirs du passé. Ils avaient les souvenirs de leurs erreurs, de leur infidélité. Ils avaient un tas de regrets. C'était pas évident. C'était pas évident pour eux. Ils étaient pauvres, ils étaient attaqués, ils étaient persécutés. Et tout d'un coup, ils reçoivent ce commandement. Quand on lit en Ezra, dans la même histoire, tout le monde pleurait. Et au milieu de ces larmes, de ces lamentations, de ces tristesses, tout d'un coup, ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Et là, quand je lis ça, je dis, mais est-ce que la joie du Seigneur, c'est comme un robinet? Tac. Ah, je suis dans la joie. Frère, comment vas-tu ce matin? Ah, je suis dans la joie. Mais est-ce que c'est juste un robinet? Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas que c'est juste une pensée positive ou une sorte de technique. Voilà, on va chanter! Voilà, ça dure, mais ça perdure pas, là. Ça, c'est difficile. Et il doit y avoir quelque chose de plus. Si ça va durer 2018, si cette parole va être réelle, il doit y avoir une œuvre profonde de réception dans notre cœur. La joie de l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel est votre force. Et donc, là, c'est le commandement, d'accord? Mais je veux vous donner le contexte, parce que souvent, on largue ce verset aux gens. La joie de l'Éternel est votre force, mais après, on ne donne pas le contexte. Et donc, je vais construire un peu le contexte autour de cette parole. Et commençons au verset 3 de Néhémie 8. C'est dans un contexte de la lecture de la parole de Dieu. D'accord? C'est dans un contexte de lecture, de présence, de parole. Le livre de la loi de Dieu, et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc là, je pense que c'est important. C'était dans le contexte de la compréhension de la parole de Dieu. Il y a le système du monde, il y a les informations, il y a les paroles partout, il y a beaucoup de paroles qui nous découragent. Mais tout d'un coup, dans ce contexte, il y a Esdras qui dit, voilà, je suis en train de lire la parole de Dieu. Et les gens, ils pleurent, ils sont découragés, mais devant cette parole, il y a une force. Et là, il essaie d'expliquer, il essaie de donner un sens à cette parole pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et après là, juste verset 9, hein, milieu de verset 9, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles, parce qu'ils voyaient combien ils étaient tombés, combien ils étaient loin. Et donc ils pleuraient, mais Dieu dit non, mais cette parole, il y a une force dans cette parole, il y a une présence de Dieu, il y a une proximité de Dieu dans cette parole qui peut changer vos pleurs. Parce que dans cette parole, il y a l'Éternel. Et dans l'Éternel, il y a la joie. Et donc dans cette parole, il y a la joie. Et donc le peuple, il devait recevoir par la foi cette transformation dans leurs émotions, dans leur être entier, que la parole pouvait leur donner. Et c'est bien, hein, les Juifs, moi j'aime bien leur côté, ils ne sont pas juste purement spirituels. Ah, la parole, je vais voler comme un ange avec la parole, je suis tellement saint. Après, la parole est liée à quelque chose de très physique. Il dit, allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces. Ah, mais c'est bien ça, tu vois. Et je pense que d'être imbibé vraiment de la parole, c'est aussi croquer vraiment dans la vie. Croquer dans la vie. Profiter, bon, sans excès. Mais c'est presque l'excès pour les Juifs, quelquefois. Et j'aime bien ce risque. J'aime bien ce risque. Ils sont tellement transformés par la beauté de la présence de Dieu. Allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces. Et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Et après, nous lisons vers la fin de verset 12, « Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. » Ils avaient compris les paroles. Et quand vous recevez une parole, c'est une révélation, une compréhension. Tout d'un coup, il y a une illumination intérieure. Et c'était ça le contexte de ce verset. La joie de l'Éternel est votre force. Ils ont compris. C'était pas une obligation. Je suis obligé d'être joyeux. J'ai horreur de ça. Quelquefois dans nos milieux protestantes, évangéliques, on pousse les gens. Vous êtes obligés de sourire. Vous êtes obligés. Mais vous ne pouvez pas faire ça de l'extérieur. C'est la manipulation. Et je sais que les gens sont affligés. Je sais qu'il y a des difficultés de la vie. Mais quand vous avez une illumination intérieure, quand vous avez cette illumination de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu dans sa parole, il peut avoir un soleil qui est plus fort que toute la pluie et toute la brume. Quelque chose qui brille en toi. Et c'est ce qui s'est passé dans ce contexte de Néhémie. C'est que le peuple, ils ont saisi la parole de Dieu. Ils avaient une compréhension de la parole. Bon, il y a un autre contexte, c'est que c'est Sukkot. C'est la fête des huttes, la fête des tabernacles. C'est un grand fête. Vous savez que Dieu, il a donné aux Juifs les fêtes. Il y a plusieurs fêtes. Mais les fêtes sont un temps pour concrétiser la foi. D'accord ? C'était un moment où les gens pouvaient dire « Dieu, je t'aime !» où ils pouvaient être renouvelés dans leur foi. Et nous aussi, on a besoin, on n'a pas les mêmes fêtes. Mais ces fêtes sont des petites explosions de Christ dans l'Ancien Testament. C'est les manifestations de Jésus-Christ, la beauté, la bonté de Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc les fêtes manifestent la foi du peuple de Dieu et le désir de recevoir une bénédiction de Dieu. Et donc dans le contexte de Néhémie ici, la joie est liée à cette célébration de la fête des huttes, on dit en français. Mais ça peut être des fêtes des tabernacles, au Sukkot. Ça veut dire hutte en hébreu, Sukkot. Et donc, qu'est-ce que c'était Sukkot? C'était un moment où on devait construire une petite tente, une petite habitation sur le toit de sa maison. C'est beau ça. Tu sais, on devait arrêter la télé, il n'y a pas d'électricité, arrêter l'iPhone, voilà, et on devient un peu plus sauvage, un peu plus naturel. On devait chercher des branches, la nature, on devait... Tu sais, ça fait du bien pour les gens à Roubaix, Lille, entourés de béton et tout ça. Tout d'un coup, on devait chercher des branches, faire une petite habitation. C'est bien, on voit des gamins, ils aiment bien faire ça, faire une petite maison. C'est parce que les gamins, ils ont quelque chose de Dieu en eux. Et nous, nous perdons ça. Et Satan, il veut voler cette capacité d'apprécier le naturel. On devient drogué de l'électricité, du béton, d'un tas de choses. Et donc, cette fête de hutte, c'était un temps de se souvenir qu'on était pèlerin sur la terre, que les choses matérielles n'ont pas autant d'importance que ça, ni de permanence. Et donc c'était un temps d'être un peuple pèlerin, de dire voilà, on n'a pas besoin d'un grand temple, même pour nous. On peut faire l'église comme une tente quelquefois, au lieu d'avoir un bâtiment rigide tous les dimanches. C'est bien, je ne suis pas contre, je ne crache pas dans la soupe. Mais c'est bien d'être nomade aussi, de dire voilà, on n'a pas besoin de tous ces trucs-là. Et donc ça, c'était une proclamation de l'impermanence de ce monde matériel. Parce que si tu puises ta joie dans uniquement le matériel, tu seras frustré. Tu n'auras pas la joie. Ces choses puisent notre joie. Et après, quand tu devais monter, aller monter, trouver une certaine élévation. Et sur le toit de la maison, tu fais cette petite tente, une hutte. Et après, il ne fallait pas bloquer le ciel. Il fallait mettre deux ou trois branches de palmier. Mais comme ça, on avait accès au ciel. On voyait les étoiles. On avait accès au ciel. Et bon, c'est pas le nord de la France. C'est symbolique. Hein? On avait accès au ciel. Magnifique, accès au ciel. Et je pense que c'est ça l'essentiel de cette fête de Sukkot. Ça montrait au peuple de Dieu que leur bonheur n'était pas dans le matériel, mais que leur bonheur était dans cet accès qu'ils avaient comme peuple privilégié pour aller vers le ciel, d'avoir un ciel ouvert au-dessus d'eux. Et chaque matin quand tu te lèves, chaque minute de la journée, tu as cet accès au ciel ouvert. Mais on oublie. On est là, premier étage, bétonné. Et on oublie qu'on peut monter. Ah, il y a tout le ciel qui est là. J'ai accès au ciel. Et donc, encore, ce commandement de la joie était dans le contexte de cette fête de Sukkot. Et laisse-moi juste lire en Deutéronome 16:15. Parce que tu vois le cœur de Dieu quand même. On oublie l'immensité de la joie de Dieu qui est dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu, il est dans toute son immensité, toute sa beauté, toute sa passion dans cet Ancien Testament aussi. Et tu vois sa générosité. Deutéronome 16:15. Et encore, c'est peut-être un verset sœur à mettre à côté de Néhémie pour cette année. Parce que ça va vous montrer comment Dieu est pour vous. Et donc verset 15, ça parle de comment il faut fêter. Hein. Je ne vais pas lire tout parce qu'il y a trop. Mais c'est quand même comment pratiquement faire cette fête des huttes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans toute l'œuvre de tes mains. Merci Seigneur, ce désir de bénédiction que Dieu a sur nous, pour nous, pour 2018. Je te bénirai dans toutes tes récoltes. Nous, on n'est plus un peuple agricole. Mais là, on a une possibilité de récolter chaque jour, de récolter le fruit de l'esprit, de récolter des arbres, de récolter de bonnes œuvres. Et Dieu va nous bénir dans ces récoltes et dans toute l'œuvre de tes mains. Et écoutez maintenant. Et tu te livreras à une joie sans réserve. Waouh! Moi, je suis juste une petite chrétienne évangélique. J'ose pas sauter. Mais une joie sans réserve. Tu vois combien Dieu doit être frustré. Tu vois combien on est réservé quelquefois. Combien on est réservé, paralysé. Au lieu d'être dans la joie, on est tellement attristé, on se fait dominer. On reste au premier étage au lieu de monter sur le toit et de regarder le ciel. On est dominé. Et donc Dieu, laisse Dieu être Dieu dans ton cœur. Et c'est-à-dire, est-ce que, au moins pour, quand je lis ma Bible le matin, je vais me livrer à une joie sans réserve. Sans réserve, sans réserve. Une joie dans ta présence. Et dans ma vie, d'avoir cette joie sans réserve. Et il y avait un autre contexte aussi. C'était un contexte de séparation. Et là, on peut voir ça en Néhémie 9. C'était Néhémie 9, 2. Ceux qui étaient de la descendance d'Israël s'étant séparés de tous les étrangers. Hein, c'est pas, je ne veux pas prêcher le racisme, hein. Mais c'était, eux, ils étaient un peuple qui devait être différent. Et je pense que pour nous, maintenant, on est un peuple saint, mis à part. Ça ne veut pas dire qu'on est mélangé, on est toutes les races. Mais la séparation, c'est une séparation de cœur. C'est une séparation avec le péché. C'est une séparation avec la mort. C'est une séparation avec les œuvres du mal. On est séparé de ça. Et cette séparation est essentielle pour avoir la joie. Tu sais, le péché vous mine. Le péché vous décourage. Satan est vachement triste. Il est vachement triste. Et il est le gars le plus déprimé du monde. Et ses serviteurs sont déprimés. C'est quand vous suivez des mauvaises voies, ça vous emmène vers la dépression. Les anges, Jésus, c'est la joie, c'est la victoire, c'est la beauté, c'est la pureté. Et donc c'est aussi dans un contexte de séparation. Et donc voilà, je vais être pratique maintenant. Je vais être pratique. Je vais vous donner 4 choses pour avoir la joie. Vraiment pour que la joie du Seigneur soit votre force. Des choses que vous pouvez faire, même le 1er janvier. Voilà ce que je vais faire. La première chose, c'est pratiquer la reconnaissance. D'accord ? La reconnaissance. Parce que quand vous étiez dans votre petite hutte là, en regardant le ciel, vous pouvez dire, ouais, mais quand même Seigneur, merci. Merci pour tout ce chemin parcouru. Merci pour mon histoire. Merci, je me rappelle quand j'étais esclave en Égypte. Je me rappelle quand toutes ces choses ont eu lieu. Je me rappelle mes épreuves. C'est vrai, j'ai beaucoup pleuré, mais maintenant, tu m'as délivré. Et même si je suis toujours dans l'épreuve, je sais que tu seras fidèle, Seigneur. Et donc, la reconnaissance. On a chanté ce matin, merci, 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 merci. Ça fait du bien de le dire. Ça fait du bien de le dire à Dieu. Dieu, il prend plaisir à recevoir notre reconnaissance. On dit, bon, il est assez grand, il sait, il connaît mon cœur. Non, mais quelquefois, en le disant, tu deviens reconnaissant. Quand tu dis rien, tu n'es pas reconnaissant. C'est le silence n'est pas la reconnaissance. Oh, mais je le crois, je le pense dans mon cœur. Ouais, mais quand même, faut le dire. C'est tout le monde, on a besoin d'entendre. Merci. Oh, mais c'est dans mon cœur quand même. Non, mais... Quand on ne le dit pas, ce n'est pas dans le cœur. Quand on ne le dit pas, c'est une habitude. Quand on ne le dit pas, c'est vague. Et donc, ça fait du bien. C'est pour ça qu'on a des moments d'adoration. C'est pour dire merci. C'est pour exprimer une reconnaissance pour la vie, pour la vie, pour la provision. Et mille fois merci. Mille fois merci, Seigneur, pour tout le chemin parcouru. On dit, mais Seigneur, ça n'a pas été 100% parfait comme je vous l'ai dicté. Ça, c'est l'orgueil terrible de dicter à Dieu tous les trucs. Quelquefois, il y a des chemins, on ne comprend pas, mais Dieu est plus intelligent que nous. Et je sais une chose, que tout finira bien. Ça, c'est sûr. Mais d'être dans la reconnaissance. La deuxième chose, et c'est le plus important, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. D'être rempli du Saint-Esprit. C'est de demander à Dieu, de dire, Dieu, vous avez votre feuille de reconnaissance, tu dis merci, merci. Et après, tu dis, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et ça faisait partie de la fête de Sukkot. Tu sais, je n'ai pas le temps de tout dire, mais il devait partir. Tu sais, ça, c'est le contexte ici. Il parle beaucoup de la porte des eaux. Et dans la grande fête, même Jésus, quand il était allé à la fête, il faisait une grande procession. Il lisait le psaume 118. Qui parle de la hesed, la bienveillance, l'amour éternel de Dieu. Et là, il prenait de l'eau. Il prenait de l'eau. Et il prenait le vin. Et il offrait le vin à Dieu et il versait l'eau. Et tout ça, c'était une image du Saint-Esprit. Et quand vous lisez dans le Nouveau Testament, en Jean 7, 37, le dernier jour de la fête, ça c'était Sukkot, hein, où ils étaient là en train d'être dans la joie. Et là, ils avaient leur eau, ils avaient leur vin. Mais Jésus, le dernier jour, Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » En 2018, j'ai dit, « Mais Seigneur, je veux venir à toi chaque jour et je veux boire. Je veux boire. Je veux boire, Seigneur. Ne soyez pas remplis du vin. » qui mène à la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit qui mène à une plus grande débauche spirituelle sainte. Tu vois, qui va vous donner une joie sans réserve. Parce que si Dieu, si on fait cette comparaison avec le vin et le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui donne la joie. Et Dieu dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est ça la joie. Des fleuves d'eau vive qui coulent de l'intérieur de toi. Et même dans l'épreuve, même dans la tempête, les fleuves qui coulent de l'intérieur. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Sans ça, tu vas être vaincu. Tu ne peux pas vivre sans le Saint-Esprit. Le monde est trop triste. Si tu restes premier étage, cloué à la télé, tu es bloqué. Mais si tu montes, allez, demande à Dieu, dis, Père, donne-moi le Saint-Esprit. Oui, combien de fois tu demandes le Saint-Esprit? Combien de fois tu demandes? Demande. J'ai dit, voilà, peut-être j'ai demandé il y a 30 ans, j'étais baptisé dans le Saint-Esprit et j'ai eu un moment magnifique, mais maintenant, aujourd'hui, c'est parce qu'on a des fuites. Il faut demander. Remplis-moi. Et surtout, quand tu as perdu ta joie, il faut demander le Saint-Esprit parce que sa présence et la joie. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais maintenant, il est glorifié. Saint-Esprit est versé depuis Pentecôte. Seigneur, remplis-moi. Soyez remplis de l'Esprit. Et après, voilà, il faut demander à Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit. Et après, obéissance à la révélation. L'obéissance apporte la joie. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, quelquefois on lutte, hein, la chair dit non, je ne veux pas faire ça. Il te dit, voilà, pardonne, donne, aime, agis, fais. Tu sais, il y a toujours... Dieu ne nous laisse pas passifs. Mais il nous demande pour notre bien. Et quelquefois, nous luttons. Combien de fois, j'ai un tas de témoignages où j'ai lutté. Non, je ne veux pas faire ça. Mais le moment où tu cèdes, le moment où tu dis oui, je suis joyeux. Et tu sais, l'obéissance est liée à la joie. Ne résiste pas. Ne soyez pas un peuple avec la nuque raide. Mais qu'on apprenne. Je suis d'accord que quelquefois ça prend un peu de temps. Mais la désobéissance mène à la tristesse. Et finalement, quatrième chose, plus importante aussi, toutes ces choses sont liées, hein, la communion avec Christ. Juste d'être en mission avec lui. C'est réel de connaître Jésus. C'est réel d'être en mission avec lui. En mission, chaque jour. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui, Jésus? D'être collaborateur avec lui. D'être partenaire avec lui. D'être en communion profonde avec lui. Tous les jours, tous les moments de la journée. De l'écouter. Quelle joie de pouvoir fermer les yeux et de savoir qu'il est là avec toi. Communion avec Christ. Et vous savez, cette communion avec Christ, c'est l'accomplissement de Sukkot. C'est d'être tous les jours nomade dans ta petite hutte avec le ciel ouvert sur toi. Pas juste une fois par an. Maintenant, la fête de Sukkot est devenue chère. Je vais vous le montrer. Jean 1, 14. Jean 1, 14. C'est les paroles de Noël. Et on oublie les Juifs à Noël, hein, quelquefois. Mais Sukkot est vraiment Noël. Verset 14, Évangile selon Jean, chapitre 1. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venant du Père. Ah, alléluia. Mais ce mot-là, la parole a été faite chair et elle a habité avec nous. C'est le mot grec skino, qui est une traduction directe de tabernacler. Il a dressé sa tente, littéralement. Il a dressé sa tente parmi nous. Il a incarné le Sukkot pour un peuple. Il n'est pas venu établir un temple. C'est pour ça qu'il a été crucifié. Il n'était pas là pour établir rigidement un temple. Il a dit, c'est pas à Jérusalem. C'est en esprit, en vérité qu'on doit louer Dieu. Et la Jérusalem céleste descend du ciel. Et là, il est venu pour camper avec nous, pour bouger avec nous, pour être dans la simplicité, pour dire, venez, monte, allez, on va faire la fête sous tente. Tu sais, il y a longtemps, quand j'étais un jeune homme, je travaillais comme responsable du camping. J'étais en Bretagne et tout ça. Il n'y avait rien de meilleur que de vivre. J'ai vécu tellement de mois sous tente. Et quand j'avais 19 ans, 19 ans, il y a tellement longtemps, j'ai passé, c'est pas 6 semaines, j'ai fait du stop depuis Londres jusqu'à Barcelone. Et toutes les nuits, j'avais une petite tente. Je dormais sous le pont d'Avignon. Je faisais, mais c'était joyeux. J'étais joyeux d'être sous ma tente, dans la simplicité. Et la vie est trop compliquée quelquefois. Et Jésus est venu pour dire, voilà, je vous offre cette joie simple d'être avec moi tous les jours. Allez, je fais Sukkot avec toi. Je veux tabernacler avec vous. C'est ça, Noël. Je veux tabernacler avec vous. Et quand vous êtes dans cette fête de Sukkot, sous la tente avec Jésus, waouh, c'est la joie. C'est la joie. Mais cette idée de fête de tabernacle, il y a une identité voilà. Pour la fin des temps. Apocalypse 21. Il y a un grand commandement qui résonne au travers l'univers, qui résonne jusqu'à nous aujourd'hui. Et ce grand commandement, j'entendis, 21.3, j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Skino encore, il dresse sa tente avec nous. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il habitera avec eux. Tabernaclé encore, skino. Il dressera sa tente au milieu d'eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Ah, sous la tente, avec Jésus, il y a la joie. En communion avec Jésus, il y a la joie. Il y a la joie, il y a la guérison. Parce que les larmes sont réelles, mais celui qui essuie nos larmes est aussi réel. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et pourquoi on peut être dans la joie? Vraiment. La mort ne sera plus. La mort ne sera plus. C'est ça la grande proclamation. C'est pour ça qu'on peut avoir la joie. Parce que l'ennemi de la joie, c'est la souffrance et la mort. Mais la mort n'est plus. Il y a la résurrection. Jésus-Christ a triomphé. La mort n'est plus. Mais ce n'est pas juste une théorie. C'est une expérience. Et c'est une expérience que nous vivons, pas juste dans un temple au premier étage. Mais il faut monter. Il faut retrouver la simplicité d'une relation avec Jésus. Et là, le ciel proclame, la mort n'est plus. Dieu est avec toi. Allez, tu es avec lui. Tu es en relation, tu es en communion avec lui. Qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Pourquoi être triste quand tu vois l'éternité qui est déployée devant toi? Une éternité de bonheur, de grâce. Tu es l'épouse de Christ. Voilà, toute une éternité de bonheur qui imprègne déjà ma réalité. Je ne suis pas juste dans une triste salle d'attente, mais je suis dans une action prolifique, héroïque, en disant que ton règne vienne, Seigneur. Et je prends ma tente et on fait route ensemble. Je suis reconnaissant, je suis rempli de le Saint-Esprit. Je t'obéis, je suis en communion avec toi. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et chose étonnante, tout le béton, tout le matériel, tout ce que l'homme édifie, a disparu. Ça n'a pas de sens, tout le mal. Mais ce qui demeure, c'est cette petite hutte. C'est cette relation avec Jésus-Christ. C'est ça où il faut mettre la priorité, dans la communion et dans la relation. Celui qui est assis sur le trône dit, voici. C'est au début d'une année, c'est toujours bien de lire ces paroles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Contexte parole. Certaines et vraies. Je crois à ta parole, Seigneur. Je n'ai pas besoin d'un appui psychologique et tout ça. C'est dans ta parole et je crois à ta parole. Quelle joie de croire à la parole de Dieu qui dit, c'est certain, c'est vrai, je fais toutes choses nouvelles. Écris ces choses, écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et comme Jésus à la fête de Sukkot, à la porte des eaux, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Allez, laissez-vous imbiber. Donc, soyez enivré par la présence du divin, par la présence de la sainteté, gratuitement, la grâce. T'as pas allumé une bougie, t'as pas donné d'argent, t'as aimé, t'as recevoir, t'as à croire. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Il y a une possibilité de passer à côté de tout ça. De passer à côté d'aimer Dieu et d'aimer le frère. Ça c'est. Et on a toute une liste après. Les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, tous les menteurs. Là, leur part, c'est dans une non-existence. C'est dans quelque chose qui... c'est fini. Il n'y a pas... Ils restent là, écrasés sur le premier étage, écrasés dans leur égoïsme, écrasés dans leur incrédulité. Ils n'ont pas le ciel ouvert. Ils n'ont jamais monté, n'ont jamais dressé leur tente. C'est terrible d'être là. C'est terrible là. Mais il y a une plus grande vérité pour nous. On est ceux qui sont pardonnés par le sang de Jésus, qui croient, qui sont reconnaissants, qui sont remplis de l'Esprit, qui obéissent au commandement d'aimer et qui sont en communion avec Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Je suis l'alpha et l'oméga. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils, ma fille. C'est pour ça qu'on doit avoir la joie. La joie du Seigneur est votre force. Donc je vais prier maintenant. Et on va prier qu'en 2018, pour ceux qui veulent, mais je vous appelle à quitter le premier étage. Pour faire une petite hutte, pour être un peu plus... Si vous êtes tellement attachés à ce monde, c'est une séparation. Si vous êtes tellement attachés au péché... Mais on va briser le pouvoir du péché si on est tellement attaché à ma petite vie égoïste. Mais Dieu nous invite à être un peu plus léger. Et là, vous allez trouver la joie en étant plus léger. Disant, je ne peux pas, Seigneur, je ne peux pas. Mais demande au Saint-Esprit. Soyez reconnaissants. Pratiquez la reconnaissance. Pratiquez l'obéissance. Pratiquez la communion. Et comme je dis, tout le contexte, c'était dans la parole. Vous avez entendu une parole. Vous pouvez même revenir à ces versets que je vous ai donnés, surtout en Apocalypse et en Jean. Vous verrez la réalité de la parole est plus grande que la réalité de ce monde. Donc Seigneur, on va prier maintenant pour tous ceux qui veulent. On va prier, on va monter, on va construire notre petite hutte, notre soukote. Ça ne va pas être juste un jour, mais ça va être toute l'année, la fête des tabernacles, une joie sans réserve. Seigneur, ce matin, je choisis de croire à ta parole. Et Seigneur, je ne veux pas m'affliger en 2018. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est ta force. Seigneur, que ça soit vrai pour moi. Je veux obéir à ce commandement dès le 1er janvier, dès demain matin. Je veux que la joie de l'Éternel soit ma force. Donne-moi une langue qui exprime la reconnaissance. Donne-moi, Seigneur, une prière pour être rempli du Saint-Esprit. Remplis-moi même maintenant. Sois visité par le Saint-Esprit maintenant. Sois visité. Si tu as soif, bois maintenant. Bois, reçois le Saint-Esprit encore plus. Reçois dans ton plus profond être ces fleuves d'eau vive qui sont plus forts que tous les mensonges, que tous les péchés, que toutes les puissances du mal qui t'entourent. Laisse-toi imbiber par le Saint-Esprit qui te donne soif pour 2018, que tu aies soif pour aller plus loin avec le Seigneur. Seigneur, je veux t'obéir. Je veux me détourner des mauvaises voies, les voies de désobéissance, les voies de la tristesse. Et Seigneur, je choisis d'être en communion avec toi. En communion. Je veux vivre dans ta tente, chaque minute, chaque seconde, avec cette vue du ciel ouvert. Oh Seigneur, je reçois ta parole dans mon cœur. Et je te dis ce matin, oui, oui, je vais obéir à ton commandement. La joie de l'Éternel sera ma force pour 2018. Oui et amen, au nom de Jésus. Amen.